Suivez le guide avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale du tourisme. Laissez-vous porter par sa fougue et sa passion à travers les chemins du patrimoine. Elisabeth vous emmènera, sans avoir l'air d'y toucher, dans la réalité et dans le rêve. Et tout ceci est possible grâce à notre ami fidèle Laurent à la technique. Elisabeth, bonjour. Et pour clore notre thématique sur les jardins et les plantes, nous allons voyager dans des jardins d'ici et d'ailleurs. Quand je dis clôturer, on pourra toujours avoir certaines annexes lorsque l'on aura envie, avec le printemps par exemple.
Saison,
voilà. Donc, nous allons voyager dans les jardins d'ici et d'ailleurs.
Voilà. Effectivement, il m'a semblé intéressant de rassembler trois jardins. Un jardin du monde, un jardin français et un jardin de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant le jardin du monde, j'ai choisi, bien sûr c'est un choix très personnel, mais toute personne peut avoir des choix fort différents en fonction des voyages qu'elle a effectués ou autres. Et voilà, mais je vous soumets mon choix. Donc, le jardin dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le jardin Majorelle dans la villa Oasis. C'est à Marrakech, au Maroc, excusez-moi. Ce jardin Majorelle est un jardin botanique, touristique, d'environ 300 espèces, sur près de 1 hectare. Donc c'est un jardin assez important et qui se situe à Marrakech, au Maroc. Et il s'accompagne aussi maintenant d'un musée de la culture berbère. Ce jardin Majorelle porte le nom de son fondateur, de son créateur, l'artiste peintre français Jacques Majorelle, qui a vécu fin 19e et 20e. Et il l'a créé en 1931 en s'inspirant d'un type de jardin islamique. Il est vrai que lorsqu'on vit dans ces pays, un certain temps, on est séduit par l'ambiance des jardins islamiques. Ce jardin, plus tard, lorsque Jacques Majorelle, suite à un accident de voiture, est parti du Maroc, a été acheté par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger en 1980. Il appartient à ce jour à la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent et la maison est labellisée Maison des Illustres depuis 2011. Alors Jacques Majorelle, qui était un artiste, amoureux de botanique, il crée son jardin botanique inspiré de jardins islamiques, comme je viens de le dire, c'est-à-dire avec la luxuriance d'un jardin tropical autour de sa villa. Il qualifiera ce jardin une cathédrale de forme et de couleur. Il est structuré, ce qui est très important, à partir d'un long bassin. L'eau est très très importante dans les jardins islamiques, autour d'un long bassin avec plusieurs ambiances variées où se nichent des centaines d'oiseaux. Donc en fait, on a le bruit de l'eau, on a le chant des oiseaux. Et ce jardin est une œuvre d'art vivante, en mouvement, alors composée de plantes exotiques et d'espèces rares qu'il rapporte de ses voyages dans le monde. On a déjà parlé de ces personnes qui voyageaient dans le monde au XVIIIe siècle et qui rapportaient des plantes. On rapportait des plantes autrefois de ces voyages et on les transplantait. Donc on verra que c'est pas toujours facile. Mais alors parmi ces plantes, eh bien on peut parler de cactus, de yucca, de nénuphar, de lotus, de nymphéa, de jasmin. Alors là, c'est l'essence, l'odorat qui est entraînée dans ces odeurs. Bougainvilliers, palmiers, cocotiers, bananiers, bambous, caroubiers, agaves, cyprès. Et bien sûr, tout ça est mis en scène accompagné de fontaines, de bassins, de jets d'eau, de jarres en céramique, d'allées, de pergolas. Donc il faut imaginer, surtout sortant de ces rues assez peuplées, ces rues de Marrakech qui sont très, très
animées,
voilà. Et hop, on rentre et on est dans une autre atmosphère qui flatte tous nos sens, quoi.
Et la couleur également. Il me semble que, par exemple, les jarres et tout ce qui était céramique avaient une couleur, si j'ai bon souvenir, d'une couleur bleue.
Bleu majorelle. Voilà, c'est ça.
Ça a gardé le...
Voilà, c'est le bleu majorelle. L'artiste, en 1937, avait créé ce bleu majorelle, un bleu outre-mer, un peu cobalt, à la fois intense et clair, et dont il a peint les murs de sa villa, puis tout le jardin, pour en faire un tableau vivant qu'il a ouvert au public en 1947. Donc c'était intéressant. Et donc, comme je l'ai dit, à la suite d'un accident de voiture, Jacques Majorelle est rapatrié à Paris. Il meurt en 1962. Et le jardin est alors laissé à l'abandon pendant plusieurs années.
Oh, quel dommage!
Mais voilà! Yves Saint-Laurent et Pierre Berger découvrent le jardin Majorelle en 1966 au cours d'une promenade et au cours d'un séjour, le premier séjour qu'ils feront à Marrakech. Ils disent ceci: « Nous fûmes séduits par cette oasis où les couleurs de Matisse se mêlent à celles de la nature. » C'était très bien dit. Donc, ils sont tellement séduits qu'ils achètent le jardin Majorelle en 1980. En fait, ils ont déjà deux autres propriétés à Marrakech. Et les nouveaux propriétaires décident d'habiter la villa de l'artiste Majorelle. D'ailleurs, c'est une villa où Yves Saint-Laurent dira que c'était vraiment un endroit où il se sentait bien pour créer ses modèles, quoi. Il était au calme et il avait cet environnement très inspirant. Ils entreprennent bien sûr d'importants travaux de restauration du jardin pour faire du jardin Majorelle le plus beau jardin, celui que Jacques Majorelle avait envisagé. L'atelier du peintre est transformé en un musée berbère qui est aujourd'hui ouvert au public et dans lequel la collection Yves Saint-Laurent et Pierre Berger est exposée. Parce qu'ils avaient collectionné aussi pas mal d'objets
sur place.
Sur place,
d'accord.
Voilà. Et Yves Saint-Laurent est décédé le 1er juin 2008 à Paris et il a souhaité que ses cendres soient dispersées dans la roseraie de la Villa Oasis, parce qu'ils avaient rebaptisé la Villa Majorelle, ils l'avaient baptisée Villa Oasis, mais ils ont gardé le jardin Majorelle.
D'accord.
Et donc il y a une sorte de mémorial composé d'une colonne romaine ramenée de Tanger, posée sur un socle où une plaque porte le nom de Yves Saint-Laurent. Voilà. Ce jardin, alors, il est vraiment fantastique, il est très ordonné, comme je l'ai dit, autour de ce bassin central qui donne sa structure à ce jardin. C'est un faux fouillis, c'est un faux... En fait, les choses sont très...
Tout est très structuré.
Tout est très structuré, mais ça donne une idée d'oasis, justement, d'un lieu un petit peu magique, où on entend des sons, où on aperçoit des couleurs, où on peut s'abriter sous un arbre, enfin voilà.
Et c'est probablement aussi du fait que les plantes sont mises, sont mélangées. Vous avez... J'imagine comme si vous avez des bambous ou des arbres, et puis par en dessous, vous avez les plantes plus basses.
Oui,
sont,
voilà.
C'est ça qui donne la magie aussi.
Qui donne la magie, parce que, comme il le dit, c'est vraiment une architecture végétale, finalement, qui est très pensée, mais qui est tellement harmonieuse, en fin de compte, qu'on ne voit plus l'architecture, on bénéficie simplement de cette ambiance.
On baigne dedans.
On baigne dedans, voilà, c'est le terme. Alors, à noter qu'un jardin tropical, c'est un des jardins les plus complexes à aménager et à entretenir si le climat local diffère de celui que la plante avait l'habitude de connaître. Là où on l'avait prise, on transplante. Et donc, on peut très bien avoir de formidables réussites comme on peut avoir des échecs sur des plantations de ce type. Mais la clé du succès, c'est l'abondance de lumière et l'abondance de l'eau qui vont favoriser effectivement cette magie végétale. Et le jardin d'Islam fait appel à tous les sens, on en a parler, chatoiement des céramiques, parfum des fleurs, bruissement du vent et de l'eau, chant des oiseaux. Il donne aux spectateurs un aperçu du jardin céleste dont parle Mahomet. C'est très représenté aussi souvent en Perse, dans les miniatures persanes, c'est très très représenté ce jardin, un peu comme nous, notre paradis terrestre, où on a eu beaucoup de schématisation de ce paradis que tout le monde imagine à sa manière, quoi.
Et ce qui nous incite à nous retourner sur nous-mêmes, à avoir une concentration et une réflexion intérieur.
Oui, voilà, c'est aussi cet aspect-là, oui. Et c'était aussi un lieu pour la femme islamique qui trouvait là un lieu de repos, qui était très important pour la femme, de lieu de discussion, entre femmes, oui, d'échange entre femmes, voilà. Donc voilà, ça c'est un très beau jardin et j'invite tout le monde à s'y rendre pour un temps extraordinaire.
Merci. Thank you. sur Couleur FM 97.1 avec Elisabeth Boivin. Suivez le guide. Elisabeth, nous venons d'entendre Camille Saint-Saëns, née à Paris en 1835 et décédée en Algérie en 1921, avec Luigi Piovano au violoncelle, Louisa Pryor au piano, et c'était la romance opus 36. Et donc, nous avons avec vous voyagé à travers la Villa Majorelle et son jardin, un jardin des sens, un lieu d'inspiration et de création pour Yves Saint-Laurent. Maintenant, allons vers un jardin en France avec la Villa Effrouzi, qui, elle, dont le jardin est lui de statut social, lieu de faire valoir d'une villa de rêve. Qu'allez-nous nous raconter, Elisabeth ?
Oui, alors c'est un jardin. J'ai trouvé l'histoire de ce jardin assez intéressante et le lieu, bien sûr, fabuleux. En fait, pour revenir sur sa créatrice, la Béatrice de Rothschild, c'est la fille de Alphonse de Rothschild, qui était un banquier, un collectionneur d'art. Et à 19 ans, elle épouse un ami de ses parents, qui a 15 ans de plus qu'elle. Le mariage tourne vite au désastre. Il lui transmet même une maladie qui ne lui permettra pas d'avoir des enfants. Et donc, ils obtiennent le divorce. Et à partir du moment où Béatrice Effrouzi de Rothschild, Effrouzi c'était un banquier d'origine russe. J'explique pour le nom Effrouzi. Donc à partir du moment où elle a été seule, elle s'est dépensée pour ses passions, en particulier les œuvres d'art. Son père était collectionneur, donc elle avait eu le goût aussi des œuvres d'art. Elle les commandait. Elles arrivaient par le train à la gare de Beaulieu sur la Côte d'Azur. Elle choisissait celle qui allait aller à la Villa Effrouzi. Les autres partaient sur sa villa Monte Carlo. Enfin, voilà.
On a oublié de dire peut-être que la Villa Effrouzi était à Cap Ferrat.
À Cap Ferrat, oui, pardon, excusez-moi. Non. La Villa Effrouzi est située à Cap Ferrat sur la Côte d'Azur. C'est un promontoire qui domine la mer, le bleu de la mer Méditerranée. C'est vraiment superbe. Et donc, elle choisit le Cap Ferrat pour y construire sa villa de rêve en 1905. Et lorsqu'elle découvre le terrain, elle a le coup de foudre sur ce promontoire. Et ce n'est pourtant encore qu'un rocher qui est traversé par un sentier muletier. Donc, c'est vraiment... mais le coup de foudre est là, elle achète ce terrain. La confection des jardins... débute instantanément et nécessitera 7 ans de travaux. Ah oui. La baronne fait appel à des personnalités, bien sûr, de renom. Ça participait au standing, on dirait ça comme ça aujourd'hui, Harold de Peutot ou Achille Duchesne, qui étaient des paysagistes très réputés en France, en Europe et en Amérique. Le site choisi pour la villa est peu propice, bien sûr, à la création d'un jardin. En effet, créer un parc sur un promontoire rocheux qui est battu par des rafales de vent...
ce n'est pas évident
du tout. Ce n'est pas évident, c'est vraiment un tour de force. Mais si la nature ne convient pas à la baronne, elle change la nature tout bonnement et donc elle fait dynamiter le rocher pour aplanir le sol et apporter des quantités de terre pour niveler le sol. Et des centaines d'ouvriers italiens vont participer à ces travaux de terrassement. Donc la baronne s'installe dans la villa. Elle prend là, bien sûr, ses quartiers d'hiver, parce que c'était en hiver, on était à Monte-Carlo ou sur la Côte d'Azur. Et puis, autrement, on était à Deauville ou ailleurs. Mais elle est là pendant l'hiver. Et elle meuble sa villa directement, faisant arriver ses œuvres d'art. et elle débute l'aménagement des jardins. Alors là, c'est assez drôle. Bon, dans un premier temps, les jardins ne sont pas finis d'être paysagés, donc elle privilégie les jardins sur lesquels donnent les fenêtres et les balcons de la villa, donc des jardins à la française. Pour le reste, eh bien, elle avait un système assez incroyable pour concevoir les jardins. Elle ne lésine pas sur la méthode. Elle crée un véritable décor mobile et vivant. Comment ?
Oui, comment ?
Comment ? Il faut imaginer ses employés dissimulés dans des pyramides de carton vert pour les arbres, représentant les cyprès, ou manœuvrant de longues bandes de tissu argenté, gris ou vert, pour figurer les pièces d'eau, les allées ou les plates-bandes. Et elle les fait bouger pour voir si ça convient.
Oh là là.
Voilà. Donc, bref, c'est assez extraordinaire. En 1934, elle est atteinte de tuberculose. Elle se retire à Davos, en Suisse, et elle meurt. La même année, l'architecte paysagiste Louis Marchand va reprendre la villa et il est chargé d'imaginer et de concevoir les jardins thématiques, jardin espagnol, jardin florentin, jardin japonais, jardin mexicain. Cette grande variété aurait certainement séduit d'ailleurs la baronne. Il remet également les bassins en eau et restaure les jardins à la française. Intervient la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, le Cap Ferrat s'est vidé de ses habitants. La villa est restée sans surveillance et les jardins, évidemment, ont été abandonnés pendant 2 ans. De retour à la villa à la fin de la guerre, Louis Marchand, toujours, se remet à la tâche dans des jardins très abîmés, bien sûr, et leur redonne rapidement l'éclat d'avant-guerre. Parce qu'il faut imaginer ces jardins qui sont sur cet éperon.
Oui,
et qui sont battus par les vents quand même. Hein, quand
le
on...
sel, le
voilà,
vent,
c'est
oui.
ça. Le bâtiment est également restauré et la couleur des façades est même redéfinie. Parce que cette villa Effrouzy Rothschild, on la voit, n'importe quelle photo aérienne la distingue, parce qu'elle est rouge-rose. Avant, elle était ocre. Eh bien, c'est après la guerre, en 1945, qu'on l'a changé de couleur pour une couleur qui, eh bien, la rend très visible maintenant. Et puis, il y a eu un hiver très rigoureux en 1945. Et là, le jardin a beaucoup, beaucoup souffert. Et le jardin mexicain, pratiquement, a été complètement détruit. Et ils ont perdu, justement, avec des rafales de vent, ils ont perdu de très beaux arbres et de très grands arbres. Et alors là, il y avait des voisins qui s'appelaient les Marnier l'Apostole, qui étaient dans la villa voisine et qui étaient amis de Louis Lagrange. Et ils eux-mêmes avaient une remarquable collection de cactées et de plantes rares. Et ils ont offert, justement, à la villa Effrouzy ce qui est maintenant ce qu'ils appellent le jardin exotique. Ils ont offert des plantes pour refaire ce qui est ce jardin. Et donc aujourd'hui, l'Académie des Beaux-Arts confie la gestion du site à Culture Espace, qui réaménage les jardins, revenant au plan originel conçu par Louis Marchand, et il restaure l'intérieur de la villa. Et donc ce lieu fait l'objet de plusieurs manifestations, dont la fête des roses et des plantes qui met à l'honneur les jardins de la villa qui sont arrangés à cette occasion un peu mieux, de manière un peu plus,
touristique, visible. Pour faire honneur.
Pour faire honneur à une manifestation, jardin. Voilà. Donc voilà, j'avais choisi ça parce que je trouvais que cette personnalité
extraordinaire.
Oui, voilà, elle était assez... Et là, on est vraiment dans un jardin qui était de standing, quoi. C'était pour faire valoir la villa et puis pour montrer à quel niveau de société on se situait. Et on a l'impression que rien ne lui résiste, quoi.
Et en plus, ça fait partie de sa passion.
Oui,
un peu
en
le
plus.
Jardin, oui.
Oui, voilà.
Alors, ça, c'était un jardin en France.
Et alors, pour le jardin de la région Auvergne-Rhône-Alpes, excusez-moi, j'ai choisi le château du Touvet, qui pour moi est un château vraiment, comment dire, c'est un jardin théâtral, et théâtral de façon aquatique, puisque grâce à leur situation particulière, les jardins du château du Touvet en Isère font mieux que Versailles dans le registre de l'eau. Mmh. En effet, à Versailles, vous vous souvenez, on avait fait venir l'eau de très loin avec des canalisations qui coûtaient très cher et tout. Et là, au Touvet, ce fut beaucoup plus simple. L'eau descend naturellement du massif de la Chartreuse et l'élément aquatique est omniprésent dans ce jardin remarquable. On y admire des rarissimes escaliers d'eau. En fait, ils se sont inspirés d'une technique italienne. Effectivement, les Italiens, ils sont vraiment très forts dans les fontaines et dans les structures aquatiques. Et donc là, ce sont des escaliers d'eau qui épousent la pente de la montagne, en quelque sorte, qui a été aménagée pour des jardins. Et c'est très très jolie, l'eau est domestiquée, on a l'impression que c'est une scène de théâtre. Et le résultat est grandiose dans un environnement alpin tourmenté. Il a été aménagé en 1750 lorsque le comte Pierre de Marcieux construisit le château. Donc je trouve que c'est un très beau jardin et qui se trouve au pied de la montagne et qui en respecte la nature.
La nature. Et c'est un beau temps à visiter. On passe par ces jardins, oui, du château du Touvet.
Oui, le château du Touvet ou l'office du tourisme de Grenoble ou du Touvet. En fait, c'est un des lieux très très connus de touristique de l'Isère. Vraiment, le château est très très beau aussi. Hein. Le jardin fait un écrin magnifique pour ce château.
C'est aussi une grande surface, comme on a pu voir pour les deux autres, ou bien c'est un
peu... Je n'ai pas noté la surface, mais bon, non, c'est peut-être un peu moins grand, encore que il tourne un peu autour du château. Enfin, il y a il y a les jardins des eaux, mais il y a un jardin à la française plus près et puis un jardin plus intime aussi près du château. Donc, point de vue superficie, je ne veux pas dire quelque chose que je ne connais pas.
Voilà, c'est pour aller se promener au printemps, ça doit être magnifique quand tout se met en place et l'eau qui nous rafraîchit avec une belle couleur bleue.
Oui, ce qui est bien, c'est de voir comment un jardinier se saisit d'un élément et le met en position principale ou au contraire en accompagnement de. On voit à travers, quand on étudie les jardins, on voit effectivement les éléments, la manière dont on les a utilisés, dans quel objectif.
Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, Laurent, à la technique et à plus tard. Thank you.